Prions. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a dans ta parole ce matin. Je te demande de parler à nos cœurs. Je te demande de nous instruire par ta parole puis de nous faire comprendre tes vérités. Seigneur, ce qu'on veut, c'est apprendre à connaître ta parole afin de s'y confirmer. Se conformer. Donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner, Seigneur. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais des gens qui se mettent à l'œuvre pour ta gloire. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va continuer peut-être pas la dernière partie de cette série-là, mais c'est quand même une belle série parce que ça m'a fait grandir spirituellement, ça m'a affermi, ça m'a fortifié. Cette série-là, c'est le 10e message, le 11e message sur les 10 commandements. On voit aujourd'hui le 10e commandement. Puis le Seigneur, il nous aime tellement que quand il a créé la création, puis il a créé les humains, il a mis des commandements dans le but que les hommes puissent s'aimer les uns les autres. C'est ça que Jésus a dit. Le résumé des commandements, c'est qu'on arrive à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais par nous-mêmes, on n'est pas capable de s'organiser comme il faut. Il est obligé de mettre des lois pour diriger le peuple, parce que notre cœur, vous allez le voir dans ce qu'on va voir aujourd'hui, notre cœur, il est tellement attiré par toutes sortes d'affaires pas correctes, des affaires qui nous amènent à désobéir à Dieu, des affaires qui nous amènent à nous détruire nous-mêmes, puis même à détruire la vie des autres. Puis le Seigneur, il veut conserver l'harmonie parmi ses créatures. Il veut que ses créatures soient heureuses d'habiter ensemble. Je sais que c'est pas ce qui se passe présentement. Il y a des places, oui, qu'on est bien, qu'on est heureux, qu'on est géré. Le système des lois ramène les lois dans des pays semblables à la parole de Dieu. Puis il y a de l'harmonie, le monde sont heureux. Mais des fois, c'est la destruction, puis le malheur, puis les gens cherchent à s'accaparer ce qui ne leur appartient pas. Puis c'est là qu'est le problème qu'on va voir aujourd'hui dans le 10e commandement qui dit... Tu ne convoiteras point. Dieu, comme je vous disais tantôt, il veut conserver l'harmonie parmi ses créatures, puis il leur interdit, dans ce commandement-là, de convoiter ce qui appartient aux autres. Ça nous est-il déjà arrivé de vouloir obtenir quelque chose que quelqu'un d'autre a? Nous, on ne l'a pas, mais on aimerait l'avoir. On aimerait prendre ce qui appartient à l'autre, mais... Si on s'écoute, là, des fois, je dis pas que là, on veut ça, mais ça a-tu déjà arrivé dans notre pensée, au moins d'y penser? J'aimerais ça, avoir ça. On voit dans le commandement que Dieu veut nous apprendre le respect des biens d'autrui. C'est ça qui est ce commandement-là. Puis aussi, il veut nous apprendre le danger de la convoitise, parce que le 10e commandement, il dit, tu ne convoiteras point. Non seulement dans cela, ça nous apprend à respecter ce qui appartient aux autres, mais en même temps, ça nous préserve du danger de convoiter. Là, sur le coup, vous allez dire, oui, ben moi, je convoite pas, j'ai ce que j'ai, puis je suis content de l'avoir. Mais vous allez voir dans les versets qu'on va lire, dans la suite de l'étude, que on est tous, je dirais pas frappés, là, mais on est tous en train de convoiter à un moment donné dans notre vie ou dans un autre, puis ça nous a amené à désobéir à Dieu. Vous allez voir que la convoitise, c'est bien plus profond que juste désirer l'objet de l'autre. Dans Exode 20, le verset 17, c'est là qu'on voit le commandement, il dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Aucune chose, que ça soit son auto, sa maison, ses meubles, ses biens, son argent, peu importe ce qui était aux autres, il faut apprendre à respecter ce qui était aux autres. Le cas qu'on parle de convoiter, pour ceux qui veulent avoir une petite définition un petit peu plus, pour avoir des synonymes, là, c'est désirer, prendre plaisir en quelque chose, être enchanté comme ébloui qu'on trouve ça extraordinaire. Il y a de quoi qui nous attire. Ça va, c'est quelque chose qui est désirable. Là, on commence à allumer notre désir de vouloir avoir la chose. Désirer grandement. Convoiter, là, c'est désirer grandement, trouver les choses désirables, trouver les choses précieuses, au point de nous amener à poser des gestes. Le péché de la convoitise, ça l'amène les gens à désobéir aux autres commandements. Quand t'es pris de la convoitise, sans t'en rendre compte, tu as déjà l'intention de transgresser un autre commandement. Il y a une multitude d'exemples dans la Bible de personnes qui étaient prêtes à faire adultère parce qu'ils ont convoité une femme, qui était prête à faire adultère, à voler parce que tu convoites ce qui est à l'autre. Tu vas aller, t'es prête à aller même prendre ce qui lui appartient. Tu vas faire un vol. Dans les convoitises, tu peux même mentir pour arriver à tes buts. Tu peux même chercher à tuer quelqu'un pour convoiter une de ces choses. Ça peut t'amener à tuer pour prendre ces choses. Puis même encore plus fort que ça, la convoitise pourra faire qu'on soit attiré vers des idoles, puis de désobéir à Dieu dans le sens qu'on transgresse le commandement en se prosternant devant des idoles parce qu'on va être attiré par des convoitises qui nous amènent à adorer des idoles. On voit ça, ce passage-là, juste pour la question de l'idole, dans Deutéronome 7, 25, des fois on pense que ça n'a pas rapport dans notre vie, mais regardez bien qu'est-ce qui est écrit là. C'est une parole qui avait été donnée pour le peuple juif quand il devait rentrer en possession de la terre promise. Il devait aller faire la guerre au peuple qui était là parce que Dieu avait établi un jugement sur ces nations-là, puis il avait donné ce pays-là au peuple juif. Fait que le peuple juif s'en va pour conquérir, puis là, Dieu les avertit de quelque chose à propos des idoles. Il dit, vous brûlerez, ça c'est dans Deutéronome 7, 25, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, des idoles. De peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand que le Seigneur a donné cet avertissement-là au peuple juif, il a dit, quand vous allez prendre possession de la terre promise, vous allez voir que les peuples ont des idoles, sont recouverts d'or et d'argent. Il dit, quand que vous allez voir ces idoles-là, vous les détruirez complètement, vous allez les faire brûler. Pourquoi? De peur que ces choses ne deviennent un piège. De quel genre de piège que ça peut être pour un être humain de voir une idole recouverte d'or? De devenir idolâtre, de rechercher, être attiré parce qu'on a un désir de vouloir. On trouve ça beau, on trouve ça attirant, ça peut exciter notre convoitise au point de vouloir nous-mêmes se prosterner devant cela. Et comme de fait, le peuple juif, il y en a qui l'ont fait. Ils ont pris des idoles, ils ont pas détruit, ils ont gardé, puis ils ont commencé à se prosterner devant les idoles. Qu'est-ce qui a animé ces gens-là d'aller faire des gestes aussi graves que ça devant Dieu? C'était la convoitise. Le désir intérieur qui est attiré par notre nature humaine, qui est attiré par le désir de convoiter les choses que l'autre a. Ça a tendu un piège, l'autre il a vu une belle statue en or, il a voulu prendre cet or-là, ça a fini qu'il s'est tourné, au lieu de prendre le conseil de Dieu, prendre la statue, puis de la brûler, puis de la détruire. Il y a eu comme, « Hey, c'est beau, hey, c'est gros, hey, c'est grand, hey, c'est précieux. » Là, c'est là que la convoitise embarque, le désir de vouloir garder cette idole-là, l'emmener chez eux, puis là, finalement, finir par se mettre à genoux devant, puis de la prier. On voit là que la convoitise, c'est le 10e commandement, ça peut nous amener à désobéir aux autres commandements. Puis on est tous avertis de ces choses-là, que ça peut être pour nous aussi, faut faire attention. Vous allez voir un peu plus loin. Dieu connaissait le cœur de l'homme, c'est lui qui l'a créé, l'homme, puis il connaissait nos faiblesses, connaissait nos attirances, être facilement attiré, puis qu'on désire des choses que Dieu aime pas, à cause du péché qui est en nous. Quand Dieu a averti son peuple, le peuple d'Israël, quand que vous allez, de génération en génération, vous allez, dans votre habillement, vous allez vous mettre une ceinture, comme une frange, puis avec un petit cordon bleu sur vous. Les Juifs devaient pratiquer cela, d'avoir ce petit objet-là après eux autres, un cordon bleu. Puis il dit, quand vous allez regarder le cordon, ça va vous faire penser à observer la parole de Dieu, à observer le commandement de Dieu, puis vous empêcher de suivre les désirs de votre cœur. Regardez dans Nombre 15, le verset 38. Vous allez voir pourquoi que je vous amène dans ce passage-là. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez puis vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Ça me fait penser à Maurice, cette semaine, il a trouvé un jeton des AA. Les AA se tiennent un jeton dans leur poche, puis ils savent qu'ils ont franchi, mettons, le jeton qu'il a trouvé, c'était écrit 7 ans. La 7e année que le gars est sobre, puis pour se rappeler qu'il doit garder sa sobriété, puis qu'il a réussi à se rendre jusqu'à 7 ans, il y a un jeton de 7 ans dans ses poches. Quand il a le goût de boire, il plonge la main dans sa poche, touche à son jeton, ça lui fait penser, « Oh, ça fait 7 ans que j'ai lâché de boire, il faut pas que je recommence. » Puis après ça, il va en avoir un à chaque année, un nouveau jeton. Mais ça, c'est un souvenir. Je dis pas qu'il faut commencer à avoir des jetons. Le mieux, ce serait de traîner notre Nouveau Testament dans nos poches. Puis là, de se rappeler qu'on est des enfants de Dieu, puis qu'on a à mettre en pratique la parole de Dieu. Puis de prendre garde à pas se laisser entraîner. Dans quoi qu'il disait de pas se laisser entraîner? Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Une infidélité envers Dieu. Pour se rappeler qu'il appartenait à Dieu, il avait le petit cordon, puis il devait mettre en pratique, puis il devait faire attention à pas écouter, puis à pas être attiré, se laisser attirer par leur regard de convoitise et leur cœur qui est saisi de convoitise, puis que ça les amènerait à désobéir à Dieu. Le commandement, je vous le rappelle, c'est « tu ne convoiteras point ». On voit que d'où vient, déjà dans ce temps-là, il savait, d'où vient la convoitise, où est-ce que ça part la convoitise? Ça part de nos yeux, puis ça part après ça, la deuxième étape, c'est dans notre cœur. Quand notre cœur est attiré puis trouve ça précieux, c'est parce que là, il y a quelque chose qui nous a séduit. Mais c'est la convoitise, le désir de prendre. C'est comme quelqu'un qui est marié avec une femme, il aime sa femme, puis une autre femme arrive, puis là, il commence à la regarder. Elle dit des belles paroles. Là, il commence à trouver ça intéressant. Si il continue dans ce chemin-là, après ça, c'est ses pensées qui changent, puis son cœur s'attache, puis après ça, il est pris de convoitise, de le vouloir rester. Je dis pas qu'il faut pas aller vers se trouver une compagne. Ça, c'est de Dieu qu'on se trouve une compagne. Mais quand t'es marié, tu restes avec ta femme, puis tu vas pas chercher une autre femme. Faut prendre garde aux convoitises. Mais les convoitises, c'est pas juste vers la femme de notre prochain. Ça peut être sa maison, ça peut être ses biens, son argent, son char. Ils ont des beaux chars. Le gazon, il a toujours de l'air plus beau chez le voisin que le nôtre. Mais c'est une séduction, ça. Parce que lui-ci, dans sa pensée, ça lui dit ça, que lui, qu'il trouve qu'on a des plus belles affaires que lui. C'est comme naturel en nous de regarder ce que l'autre a, puis de commencer à comparer, puis d'être attiré. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont été entraînées par leur convoitise. Puis il y a eu de graves conséquences. La première que tout le monde connaît, puis même, je pense que tout le monde sur la planète la connaît, cette convoitise-là, avec Adam et Ève. La tentation dans le jardin d'Éden, là, le diable a attiré Ève par la convoitise pour l'amener à désobéir à Dieu. Allez lire ça dans Genèse 3, à partir du verset 1. Ça nous dit... Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est rusé. La ruse, là, c'est du savoir-faire. Il analyse les choses. Il se fait un plan. Puis il sait comment arriver à aller chercher la faiblesse de l'autre. Rusé, c'est être capable de se faufiler pour arriver à nos fins puis d'arriver à toucher les cordes sensibles dans l'autre. Il connaissait les êtres humains, puis il savait comment faire, comment parler à Ève premièrement pour pouvoir la séduire par la convoitise. Vous allez voir, c'est clair. Le serpent était là, puis il dit, c'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ça représente le diable qui est en forme d'un serpent dans le jardin, que l'Éternel Dieu avait fait. Puis il dit à la femme, ça c'est le serpent qui parle à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit? » Il a mis un doute. Sa ruse, il a commencé par lui parler par un doute. « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Là, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand qu'au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, puis vous y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Déjà, dans sa réponse, elle a modifié ce que Dieu avait dit. Dieu, il n'avait pas dit « touchez-y pas ». Il avait juste dit de ne pas en manger. Déjà, elle n'avait pas la juste pensée de ce que Dieu avait dit. C'est ça que ça fait quand on connaît pas la parole de Dieu. Puis il est important de connaître la parole de Dieu pour être capable de la mettre en pratique. C'est tellement facile, les fausses religions, il y en a à la tonne. Comment est-ce qu'on fait pour discerner les religions avec la vérité? Il faut que tu connaisses la Bible, il faut que tu sois capable de répondre par des versets de la parole. Puis là, tu vois si les autres sont vraiment basés sur la parole de Dieu ou si c'est des raisonnements humains, des pensées rajoutées. C'est ça qui fait que ça mêle les gens. Mais elle a répondu avec une erreur dans sa réponse. Fait qu'elle n'était pas sûre à 100% de la vraie réponse de Dieu. Le diable le savait, puis c'est pour ça qu'il a dit, « Dieu, as-tu réellement dit? » Il a parlé avec un doute, pour se mettre un doute dans son cœur, elle répond quelque chose qui n'est pas la vérité. Alors le serpent dit à la femme, parce que là, la femme, il a dit, « Le jour où ce que vous en mangerez, il dit, vous n'en mangerez point, puis vous y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Ça avait que c'était une autre menterie. C'est pas une peur de mourir, c'est que Dieu a dit, le jour où ce que vous allez en manger, vous allez mourir. C'est pas juste avoir la peur de mourir. C'est tu vas mourir. Si t'es tranchant, Dieu a dit cela, tu gardes la parole puis tu doutes pas. Mais elle a douté, puis elle a pas répondu avec les vraies affaires. Le diable, il revient avec une menterie, puis il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Une belle menterie. Mais Dieu sait où le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, sa menterie qui est injectée par le diable, ça l'a amené Ève, non seulement qu'elle croyait plus ce que Dieu avait dit, mais est en train de commencer, est attirée à croire ce que le serpent est en train de lui dire, ce que le diable est en train de lui dire. La verset 6, c'est ça qui est la phrase qu'il faut regarder le plus, parce que c'est là-dedans qu'on a notre réponse, que c'est de la convoitise qui a embarqué. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a trouvé à l'arbre plein d'avantages d'en manger. La convoitise a embarqué, parce que là, en ayant des mensonges dans son esprit, elle croyait plus ce que Dieu avait dit, puis là, elle a dit, « Wow, cet arbre-là, c'est juste du plus dans ma vie. Je vais être comme Dieu, je vais savoir le bien et le mal, je mourrai pas, Puis là, elle a dit qu'il était bon à manger. Il n'a pas dit qu'il était bon à manger, mais elle, sa convoitise, lui a dit, « Ça va être bon pour mon estomac, ça va être bon à manger. » Il est agréable à la vue, elle le trouvait beau soudainement. Elle était attirée par sa convoitise. Puis elle dit qu'il était précieux pour ouvrir mon intelligence. C'était un plus pour ma vie d'avoir ces instructions-là, la révélation, de savoir le bien et le mal, d'être comme Dieu. Voyez-vous jusqu'à où que ça mène la convoitise? Dieu dit, touche pas à ça, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Le diable, il vient, tu mourras pas, mais tu vas voir, mais que t'en manges, tu vas avoir que du plus dans ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Adam et Ève en ont pris, puis ils sont morts spirituellement le moment où ils en ont pris. Il était rendu qu'il était peu à l'aise d'être en présence de Dieu. Il avait peur, il se cachait. Ils sont aperçus qu'ils étaient nus. Ils ont commencé à avoir des complexes. Tout a commencé à aller mal dans leur vie. Mais voyez-vous comment est-ce que le diable, par des mensonges, il vient nous amorcer. Il sait, il est rusé, il sait comment faire, de quoi nous dire pour qu'on soit attiré il amorce notre convoitise. Il nous start, là. Puis là, il nous dit, regarde comment ça va être beau de prendre ça. Regarde. Le gars est marié, puis regarde les avantages d'aller vers cette femme-là. Là, tu vois tout du plus. Tu vois pas que tu vas détruire ton foyer. Tu vois pas que tu vas te retrouver seul par après, parce qu'elle, c'est juste de passage, puis ta vie va être détruite, puis ta vie spirituelle va être détruite. Ta communion avec Dieu va être détruite, parce que tu vas être dans le péché. Puis là, on parle de l'adultère, mais tous les péchés, c'est la même affaire. Tu peux t'amener à mentir pour dans ta convoitise. Tu peux t'amener à voler ce qui est à l'autre dans ta convoitise. Tu peux t'amener à tuer quelqu'un dans ta convoitise. Ça, c'est la voie de la destruction. Dieu, il voulait, quand il a dit « tu ne convoiteras point », il voulait nous éteindre d'avance, qu'on n'ait pas de désir à aller vers ce qui est pas à nous. On respecte ce qui est là. Les choses sont autour, c'est pas à nous. On respecte ce qui est là. C'est aux autres. On fait attention pour pas être attiré de vouloir posséder ce que l'autre a, parce qu'il y a des pièges dans tout cela. Le diable, il est rusé, puis il sait comment essayer d'aller nous chercher, chacun de nous, dans chacune de nos faiblesses. Si on y pense, là, on a tous des faiblesses. Dieu veut vous garder dans la sainteté, il veut vous garder que vous soyez pur devant lui, il veut vous garder à ce que vous persévériez dans la foi. Puis le diable, lui, il connaît nos faiblesses, puis il essaye par ruse d'essayer de nous picosser dans nos points faibles. Il faut faire attention à pas laisser la convoitise prendre le dessus dans notre vie. Un autre, je dirais pas une belle histoire, parce que c'est pas toutes des belles histoires que dans la Bible. C'est là pour notre instruction, mais c'est des coups durs. Le péché d'Acan, je sais pas si j'avais entendu parler du péché d'Acan. Le peuple d'Israël, quand il était sur le bord d'aller chercher, de prendre possession de la terre promise, il arrive devant la ville de Jéricho, puis là, Dieu leur a dit, vous allez livrer Jéricho, dévoué par interdit. Ça veut dire, tout ce qu'il y a là, vous touchez pas à rien des biens qu'il y a là, c'est défendu. Vous détruisez tout ce qu'il y a là. Puis là, Dieu leur a donné comment remporter cette victoire-là. Fait que là, Dieu leur a dit, vous allez faire le tour avec les trompettes, puis là, l'Arche de l'Alliance, la première journée, vous allez faire une fois le tour, la deuxième journée, une fois le tour, puis personne dit un mot tout le long de la marche. La dernière journée, vous allez tourner 7 fois, puis là, après ça, au 7e tour, les trompettes vont se retentir, vous allez lâcher un cri. Puis là, la muraille s'est effondrée, exactement comme Dieu le dit. Il y avait une puissante muraille fortifiée. J'ai vu une mesure à quelque part dans un commentaire biblique, mais c'était épais, là. On parle de des mètres. Mais je me rappelle plus de la mesure exacte. Puis là, ça s'est effondré. Le peuple d'Israël ont rentré dans la ville, puis ils ont dévoué par interdit, puis ils ont détruit tout ce qui était là. Sauf ce qui est arrivé dans la suite de l'histoire. Après ça, il y avait une autre petite ville pas loin qui s'appelait Aï. La petite ville, là, était facile à aller chercher. Ils ont dit, ils n'ont pas besoin d'y aller toute la gang. Il y en a qui ont dit, on va y aller 2 000-3 000 puis on va aller combattre la ville. Fait qu'ils partent pour aller combattre la deuxième ville. Pardon?
C'est pas des géants.
Non. C'était même pas des géants en plus de ça. Puis le peuple juif est en train de manger une volée. C'était une petite ville de rien. 38 personnes sont mortes ce coup-là. Ils sont revenus en pleurs. Ils ne savaient plus qu'est-ce qui se passait. Comment se fait que Dieu n'y est plus avec nous? Dieu était avec nous pour remporter la victoire contre la ville de Jéricho. Puis on arrive avec une petite ville de rien. Je ne sais pas, ils disent pas le nombre d'habitants. mais c'était peut-être une ville de 50-100 personnes, là, c'est des petites villes. Puis il y en a 38 qui sont morts, puis ils étaient 3000, eux autres. Là. Puis ils sont revirés de bord, puis ils ont eu peur devant cette petite gang qui était là. Là, Josué, puis les anciens, ils étaient en pleurs, ils ont passé la journée en jeûne, puis à se lancer du sort de la poussière sur la tête, puis à jeûner, puis à prier, pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Dieu n'est pas avec nous. Puis là, Dieu a dit, lève-toi de là, là. Je suis plus avec vous parce qu'il y a du péché dans le camp. Dans le peuple d'Israël, il y a du péché. Il dit, moi, je vous ai dit de dévouer la ville de Jéricho, la dévouer par interdit. Vous détruisez tout, puis vous touchez pas à rien. Puis il y a du monde parmi le peuple d'Israël qui ont convoité des affaires, puis ils ont pris, puis ils ont amené chez eux. Là, Josué, il dit, OK. Là, il est allé devant, il a rassemblé le peuple, puis là, il a prié le Seigneur, puis là, il a commencé à y aller par de quelle tribu que c'était, puis après ça, tel groupe de personnes, telle famille, puis là, ils sont arrivés à Achan, là, Dieu a dit, c'est lui, puis là, il a parlé à Achan. Je vais vous lire le passage, Josué 7, le verset 19, pour ceux qui ont leur Bible, puis ceux qui ne l'ont pas, je vous encourage à l'emmener, votre Bible. Si vous voulez apprendre ce qu'il y a d'écrit là, c'est mieux de l'aller. Dans Josué 7, 19, Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, puis rends-lui hommage. » Il dit, « Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Achan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. » Le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. Pas du n'importe quoi, c'est un manteau de chinéar. Moi, je ne sais pas quelle valeur que ça avait, mais pour lui, c'était quelque chose de « Wow, c'est pas un manteau de chinéar. Ça fait longtemps que j'en veux un. » Il a pogné le manteau. Il a vu aussi 200 sicles d'argent. Probablement un petit sac avec plein d'argent dedans. Une bénédiction de Dieu, OK? Mais sans ses poches. Et un lingot d'or de 50 sicles au prix qui est rendu l'or. Gloire à Dieu, Dieu me bénit. Mais Dieu leur avait dit, vous touchez à rien de ce qu'il y a là. Vous détruisez tout. Puis lui, il a vu ça, puis il a vu ça comme un « wow ». Il l'a pris à cachette. Il pensait que personne ne s'en apercevrait. Ce que ça l'a fait, c'est que cela, c'est une désobéissance. À cause de sa convoitise, il a pris, ça a été une désobéissance. Qu'est-ce que ça l'a fait? Tout le peuple a été comme puni. Dieu était plus là. Là, ils ont été contre une petite ville en guerre, puis ils ont même pas été capables de prendre possession de la petite ville. Ça dit, je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, puis l'argent est en dessous. Josué envoya des gens et coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan, puis l'argent est en dessous. Tout était dévoilé, puis l'histoire nous dit qu'il y a un jugement de Dieu sur cette famille-là, puis ils ont été tués. La convoitise, on pense tout le temps qu'il y a juste moi qui est au courant. Il y a juste moi qui le sais. Tu décides de prendre, tu rentres chez quelqu'un, puis là, tu vois les choses qu'il y a là, tu pognes l'objet, tu t'en vas chez vous, puis tu penses que personne t'a vu. Mais ça donne que celui qui voit tout l'a vu. C'est qui ça?
Dieu.
Dieu voit tout. On peut pas rien y cacher. Il connaît nos pensées, il connaît nos paroles, il connaît nos sentiments, nos émotions. Il nous connaît entièrement, puis il nous voit tout le temps, même si on est tout seul. Il sait qu'est-ce qu'on fait, puis il sait qu'est-ce qu'on... On convoite quelque chose, on le prend, puis on le cache, puis on pense que personne nous a vu. Dieu nous a vu, puis qu'est-ce qui arrive? Il y a des conséquences parce que Dieu nous avertit, convoite pas. Parce que la tentation va arriver dans ta vie à des moments où ce que tu as peut-être le désir d'avoir quelque chose, puis tu vas prendre ce qui t'appartient pas, c'est du vol, tu vas transgresser d'autres commandements de Dieu. Un autre péché qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est le péché du roi Salomon. Là, on voit ça dans 1 Roi 11, le verset 1. Selon la parole de Dieu, Salomon aima beaucoup de femmes. Il aimait les femmes. Puis Dieu l'avait dit, n'ayez... dans les écrits, un peu avant, il avait dit, en tant que roi, il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup de femmes. Il n'empêchait pas d'en avoir deux, trois. Mais, dans ce temps-là, mais pas comme ça. Puis il avait dit à Salomon, « Prends pas des femmes étrangères. » Dieu, il a averti Salomon. Il l'a averti. Dieu, il a béni Salomon, il a donné une sagesse, là, comme aux personnes sur la terre n'avaient une sagesse aussi grande que lui. Il avait eu la victoire sur l'ennemi, puis des richesses. Il a été béni de toutes les bords par Dieu, sauf qu'il n'a pas écouté. T'as beau avoir toute la sagesse, puis la révélation, puis la connaissance, puis tu peux être désobéissant. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Il n'a pas écouté ce que Dieu l'a averti. Puis Dieu lui avait dit, prends pas des femmes étrangères. Quand on parle de femmes étrangères, il dit, quand tu choisis une femme, il fallait qu'elle soit dans le peuple d'Israël. Si tu prends une femme d'un autre pays, puis qu'elle, elle a ses faux dieux, mais tu vas finir par être attiré à aller te mettre à genoux devant le faux dieu. Dieu l'a averti de tout ça. Il a dit, il n'a pas écouté, puis c'est ce qu'il a fait. Dans 1 Roi 11, le verset 1, ça nous dit, « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. » Il aimait une femme. Là, il dit, « Outre la fille de Pharaon, » c'était pas n'importe qui, c'était des reines, des princesses. Ou, c'était pas une reine, c'était une princesse. « La fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes et des Éthiennes. » Il y en avait de toutes les tribus, de d'autres peuplades qui existaient autour de chez eux, qui appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Il avait été averti. « Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. » Mais l'amour, dans ce contexte-là, là, c'est pas de l'amour, amour. Oh, j'aime mes frères et sœurs. C'est pas de l'amour fraternel qu'il y avait, là. C'est de l'amour charnel. L'amour d'aimer physiquement. Attiré parce qu'ils sont belles, sont attirants. Puis ça lui donnait aussi des alliances avec d'autres peuples, etc. Puis il nous dit, il eut, au verset 3, ça, il eut 700 princesses pour femmes, et 300 concubines. Il en avait 1000. Pas grave. Il était riche. Non, mais c'est grave. C'est grave. Parce que c'est de la désobéissance sur toute la ligne. Dieu l'avait averti. Sur toute la ligne. Cours pas après les femmes étrangères. Puis, n'ayez pas un grand nombre de femmes. Il disait ça au roi. Ça dit, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de sa vieillesse, Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Fait que, attiré par l'amour, la convoitise, le désir d'avoir beaucoup de femmes, même si Dieu l'avait averti, puis le désir de prendre des femmes que Dieu leur avait dit de pas prendre, mais il y avait des faux dieux qui sont rentrés dans sa maison, puis ces femmes-là, ça a l'air que Salomon les laissait se prosterner devant des idoles, des statues, des images, puis lui-même, dans sa vieillesse, ça dit qu'il était en train de se prosterner avec les faux dieux. Il s'est détourné de Dieu. Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un des lys des champs. Il dit, les lys des champs, ça pousse, ça vient dans sa pleine beauté. Salomon, lui, dans sa vieillesse, il s'est corrompu, il s'est détourné de Dieu, malgré toutes les bénédictions qu'il a reçues de Dieu. Il s'est détourné de Dieu, puis s'est prosterné devant des faux dieux. C'est ce que je vous disais tantôt dans un autre passage, qui dit, même si tu verras des faux dieux, des idoles avec de l'or puis de l'argent. Détruis tout ça. Laisse-toi pas amorcer par un désir de ton cœur puis t'attacher à ça puis à commencer à te prosterner devant ça. Tu seras en train de déplaire à Dieu puis de désobéir à Dieu. Salomon, il a pas écouté, puis lui, il y a été, puis il s'est agenouillé devant des idoles. Les convoitises ont amené des séparations dans beaucoup de couples. Beaucoup de couples, pas juste ici, à travers la planète, ont divorcé parce qu'un des deux a convoité une autre femme. Il y a eu des divisions dans des familles. Mettons, tu arrives dans... Je donne un exemple. Il y a le père et la mère décèdent. Il y a un héritage. Là, tout le monde se bat pour pouvoir posséder les biens de leurs parents. Une division éclate dans la famille. Le monde ne se parle plus. Juste parce qu'il y en a qui convoitent les biens. Ça a amené des séparations, des divisions dans les familles. Je donne un exemple, mais il y en a plein d'exemples dans ce sens-là. Ça l'a amené aussi des guerres entre des villes puis des villages. Parce que l'autre convoitait ce que l'autre village avait, puis là, il part en guerre pour essayer de conquérir le territoire puis de s'approprier de ce que l'autre a. Ça a amené des guerres entre provinces et pays à cause que l'autre convoite ce que l'autre a, puis etc., puis la guerre pointe. Puis ça, la convoitise, elle a amené même une séparation entre Dieu et les hommes. Comme qu'on a vu l'histoire de Salomon, qui était un homme en communion avec Dieu, béni par Dieu, puis ça l'a amené dans son péché à être séparé d'avec Dieu. Mais là, vous allez voir dans les prochains versets que l'ensemble de l'humanité sont aux prises de ce problème-là. Savez-vous qu'à cause de ces convoitises, chaque être humain sur cette terre est maintenu spirituellement mort devant Dieu? On était tous comme ça, des morts spirituels devant Dieu, séparés d'avec Dieu à cause de nos convoitises. En Éphésiens 2, le verset 1, ça parle comme au passé, parce que là, ce texte-là parle à des chrétiens qui sont sauvés, que maintenant, ils sont en contact avec Dieu. Mais avant qu'on accepte Jésus comme notre sauveur personnel, ça nous dit, avant, vous étiez morts par vos offenses puis par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, puis nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Puis on accomplissait les volontés de notre chair et de nos pensées, puis nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dans ce passage-là, ça nous dit clairement que nous étions tous des morts spirituellement avant de connaître Jésus-Christ. On était tous séparés d'avec Dieu à cause qu'on marchait dans notre volonté, dans nos buts, dans nos désirs, à vouloir faire ce qu'on aime, dans nos convoitises. Ça nous dit dans le verset 3. On marchait selon les convoitises de notre chair. Ça nous dit, tu ne convoiteras point. Ben, nos désirs étaient de faire tout ce qui passe devant nous. Les gens couchent avec les autres, là, c'est un après l'autre. Dans notre vie, sans connaître Christ, c'est le même. Les gens sont en adultère. Les gens volent le stock des autres parce qu'ils convoitent le stock. Ils n'ont pas d'argent. Ils regardent l'autre qui en a. Ils vont chercher ce qu'il a besoin chez le voisin. En tout cas, des désobéissances selon tous les commandements de Dieu. Ça, c'est à part si on n'était pas en train de vouloir d'être à genoux devant des statues. L'idée, dans ce passage-là, ça nous dit qu'il y a trois trains qui nous mènent. Le train de ce monde, ça c'est le monde selon sa manière de vivre. Tout le monde le fait, fais-le donc. C'est ça que ça dit, le monde. Fais-le donc, fais comme les autres. Tout le monde le fait, c'est pas grave, voyons donc, même si tu as pris ce qui appartenait à ton boss. Tu es en train de travailler avec des outils, là, ces outils à ton patron. Là, tu vois l'autre employé qui emmène ses outils de son patron, il les emmène chez eux. Pourquoi? Parce qu'il les a convoités, ces outils. Il les a désirés, il les a volés. Là, l'autre te dit, c'est pas grave, prends-en toi aussi du fil, qu'hein? il déroule du fil, il coupe un bout de fil électrique, amène ça chez vous, tu as de l'ouvrage à faire chez vous. On vole ce qui nous appartient pas parce qu'on convoite les biens des autres. On fait ce que le monde fait, puis on fait aussi ce que le diable nous dit aussi, parce que c'est écrit, on est amené par le prince de la puissance de l'air, les esprits de rébellion qui sont là depuis le début de la création, qui agissent dans tous les êtres humains pour nous inspirer. « Ah ouais, as-tu vu? Vas-y! » Il nous dit des idées pour qu'on y aille, péché contre Dieu, puis notre convoitise personnelle qui embarque, puis on obéit à ces péchés-là. Les convoitises qu'on a dans des choses que Dieu veut pas, là, ça fait enfanter dans nos vies des péchés. Dans Jacques 1,14, ça nous dit « Chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est nos désirs qui nous attirent à aller prendre ou faire ce qu'on doit pas faire. La convoitise, là, il dit dans le commandement, « Tu ne convoiteras point. » Donc, on est comme responsable de gérer nos élans. Ça dit pas que tu n'auras jamais de désir. Tu peux en avoir des désirs de prendre ce qui est à l'autre. Mais il faut que tu gères ta vie, sinon tu vas commettre des péchés dans ta vie. Si tu dis oui, puis tu te laisses aller, puis tu voles les affaires, mais tu vas tomber dans le péché. Il faut apprendre à gérer nos... Si on a une impulsion à vouloir prendre quelque chose... Il y en a qui n'ont jamais osé de prendre rien qu'est-ce qui est aux autres. C'est correct, mais il y a peut-être d'autres sortes de convoitises qui peuvent nous attirer. Ça peut être des convoitises du regard, des convoitises sexuelles, là, des convoitises de regarder de la pornographie puis nous faire tomber en adultère dans nos pensées. Ou, en tout cas, nommez-les tous les péchés qu'il y a dans la parole de Dieu. Puis la convoitise... Quand elle a conçu, là, ça l'enfante le péché. Quand la convoitise est là, puis que tu passes à l'acte, c'est un péché, puis le péché, ça nous dit, étant consommé, produit la mort. Pas la mort physique, nécessairement. Tu peux vivre 30 ans, 50 ans plus tard après tes péchés, continuer à faire des péchés, autrement dit. Puis pas être mort, être encore bien vivant, puis rire, puis avoir du fun, pensant que c'est pas grave, voler. Continuer à voler parce qu'on convoite. Mais si spirituellement, le contact avec Dieu, le contact il est plus là, tu peux pas vivre dans la convoitise puis dans des péchés puis que ça il se passe rien dans ta vie. Il s'est passé de quoi comme Adam et Ève quand ils ont convoité puis qu'elle a désobéi puis elle a pris, la mort spirituelle est embarquée, une séparation d'avec Dieu. Puis il se passe la même chose encore dans n'importe quel péché aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible nous dit de résister au péché, de fuir le péché, de confesser nos péchés à Dieu. Puis demander à Dieu de nous purifier, sinon on se rendra pas jusqu'à la fin si on néglige ça, puis on se livre à toutes les convoitises qu'on a devant nous. Il faut être capable à combattre le diable quand il est venu pour tenter Jésus. Jésus a fait quoi? Il a résisté avec quoi? Avec des versets de la Bible. Dieu dit, il est écrit. Tu te sers de versets de Bible pour combattre tes tentations, pour résister, pour avoir la force. C'est un épée, la parole de Dieu, que tu frappes contre dans les tentations du diable, tu peux frapper. La convoitise détruit notre âme. C'est ce que ça dit dans 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Fait qu'un chrétien, tant qu'il donne sa vie au Seigneur, là, une personne qui donne sa vie au Seigneur devient, il est un pèlerin, un chrétien. Un pèlerin, là, c'est quelqu'un qui est un voyageur sur cette terre. Faut que tu penses comme ça. Il y a rien qui est à nous ici. Faut pas que tu cherches à tout acquérir, tout ce que c'est à la planète, parce que t'es en train de penser avec convoitise. Dieu a pourvu, il a pourvu à notre vie, puis il va continuer à pourvoir à notre vie parce qu'il l'a promis. Mais si on a les yeux, faut que j'aille ça. Tu te penses plus comme un voyageur, tu te penses comme un acquéreur, puis tu penses faut que tu aies une montagne de stock. C'est pas nécessaire. T'as juste besoin d'avoir ce que t'as besoin. Le reste, c'est pas obligatoire. Faut pas se laisser emporter par la con. Oui, mais j'ai l'argent. Même si tu as l'argent, mets ton argent dans les choses comme investis dans le royaume de Dieu. Donne aux pauvres, fais du bien, tu vas te ramasser des récompenses. Mais si tu dépenses tout pour ta satisfaction, tes plaisirs, tes loisirs, puis d'acquérir, puis de convoiter l'ensemble de la planète, puis de dire il faut que je sois propriétaire de tout, t'as pas besoin de ça pantoute. Puis le fait que tu penses trop en système, faut que j'acquière, faut que j'accumule, t'es en train de te faire la guerre à ton âme. Pourquoi? Parce que t'es plus en train de vivre en fonction de ta foi. T'es en train de vivre en fonction des choses du monde. Fait que ces convoitises, ça semble beau, ça semble avoir beaucoup de plus de tout posséder. Mais si tu n'as pas de besoin, ça devient embarrassant. Puis ton âme qui veut se connecter avec Dieu, qui veut marcher dans le plan de Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu, elle veut s'en aller par là. Là, je peux pas y aller, j'ai trop d'affaires à traîner. Ben, quelque part, il faut considérer ce qui est nécessaire puis de laisser ce qu'on n'a pas de besoin. La convoitise des choses de ce monde nous éloigne de notre communion avec Dieu. Ça nous dit dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 16, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux puis l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Le monde passe, puis ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut mettre un frein à nos convoitises, aux passions, surtout aux péchés, puis au désir d'acquérir, puis de toujours plus. Il faut mettre un frein. Ça, là, cette convoitise-là de nos yeux puis de notre corps, ça vient du monde, ça vient pas de Dieu. Dieu, il veut qu'on pense... T'es un voyageur sur la terre. Fais que c'est à faire, puis ramasse-toi des récompenses pour le royaume. Même demander avec nos convoitises, là, si t'as des convoitises, puis tu veux avoir, puis tu bases tes prières dans ces sujets-là, comme toujours en avoir plus, puis avoir ce que l'autre a, tout ça, ça t'empêche d'être exaucé dans tes prières. Jacques en parle dans Jacques 4, le verset 2. Il dit, vous convoitez puis vous possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous demandez pas. Puis il dit, vous demandez puis vous recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Les passions, là, nous font... Des fois, on a plus de sujets de prière pour nos passions que pour les choses nécessaires pour notre vie spirituelle. Faut pas que ça arrive. Faut être concentré, Seigneur, plus de toi. Le reste, mais t'as promis que tu pourvoiras. Tu peux demander pour des besoins, oui, mais faut faire attention que ça soit pas des choses inutiles puis nous faire courir pour des choses inutiles. Jésus a dit que les convoitises sont un piège qui rend les chrétiens sans fruit. La convoitise, c'est un piège qui rend les chrétiens sans fruit, puis ça va les conduire à la mort spirituelle. Dans Marc 4, 19, ça dit, ça parle de la semence qui est semée dans les endroits où il y a des épines et des ronces. Puis ça dit que les épines et les ronces ont poussé, puis ça a étouffé la semence de la parole de Dieu, puis la semence de Dieu n'a pas pu porter de fruit. Parce que la semence de la parole de Dieu était semée parmi des épines puis des ronces, puis elle a été étouffée. Puis quand Jésus explique ça, c'est quoi les épines et les ronces qui poussaient autour puis qui ont étouffé la parole de Dieu pour l'empêcher de porter du fruit? Ça, c'est dans Marc 4, 19. Jésus nous dit, c'est les soucis du siècle, la séduction des richesses, puis l'invasion des autres convoitises. L'invasion des convoitises du monde, ça étouffe la parole, puis ça la rend infructueuse, sans fruit. On est en train de faire une étude, là, comment porter plus de fruits, qu'il faut rajouter des choses à notre vie pour en porter encore davantage de fruits. Que Jésus, il dit, tout serment qui est en moi, qui porte du fruit, il va l'émonder pour porter encore plus de fruits. Mais là, Jésus, dans un autre enseignement, il nous dit, il y a des affaires qui peuvent nous empêcher de porter du fruit. Puis ça, la séduction des richesses, puis les convoitises. ça peut rendre la parole infructueuse. Le gars court tellement après les choses du monde qu'il court pas pour les choses de Dieu. Ça l'étouffe, ça l'empêche de porter du fruit. Le secret de la victoire sur les convoitises, c'est le contentement. De se contenter de ce qu'on a. Si tu penses que tu n'en as jamais assez, tu as un problème. Tu peux être heureux même si tu n'en as pas gros. C'est un mensonge de ce monde de te faire croire qu'il faut que tu aies tel objet pour être heureux. Tu vois le gars qui a une annonce à la télévision, un beau char, qui a une belle fille, puis le gars est content. Ça, c'est le cliché que le monde te projette, te montrer que pour atteindre être heureux, faut que tu aies le beau char, puis tu vas avoir automatiquement la belle-fille. Mais tu peux pas avoir la belle-fille, tu as déjà ta femme qui est la belle que tu as mariée. Tu restes avec celle-là, puis tu n'as même pas besoin non plus du beau char pour être heureux. Tu as juste besoin de te contenter de ton bazou, puis de rendre gloire à Dieu, puis Dieu va remplir ton cœur de sa joie. Amen. Croyez-vous à ça que Dieu peut nous bénir, qu'il nous soit rempli de joie, sans nécessairement obligé d'avoir un beau charneux puis tous les belles accessoires.
Avec du gaz dedans.
Avec du gaz dedans. C'est pas vrai, un beau char puis pas de gaz dedans. Dans Hébreux 13, 5, ça nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Apprendre à se contenter de ce qu'on a. Car Dieu lui-même a dit, je te délaisserai pas puis je t'abandonnerai pas. Dieu est avec nous puis il va pourvoir à nos besoins. Le dernier verset que je vous emmène là-dessus, il faut toujours se rappeler des paroles du Seigneur. C'est Jésus qui parle encore. Mais toute la Bible, c'est Jésus qui parle, même si c'est une parole de Dieu dite par Paul ou par Pierre ou... C'est Dieu qui parle, mais là, Jésus, quand il était sur la terre, il a dit une parole. Il faut se rappeler de cette parole-là, dans Marc 8, 36. Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on va être capable de donner à Dieu, mais qu'on arrive l'autre bord? Pour avoir, en échange de notre âme, on l'a perdu, notre âme. T'as beau avoir tous les biens de la planète. Si t'as perdu ton salut parce que tu t'es détourné de la foi en Jésus-Christ, parce que tes convoitises t'emmenaient à te prosterner devant des faux dieux, ou vivre dans toutes sortes de convoitises qui t'emmenaient à pécher, à tuer du monde, à voler du monde, à être un escroc, mais t'as perdu ton âme. Qu'est-ce que tu vas être capable d'offrir à Dieu en échange pour le salut de ton âme? Il n'y a rien de ce monde, même si tu auras tout l'argent de la planète, tu auras tous les biens de la planète, parce que tu seras au-delà même de Bill Gates ou de ces gens-là qui sont archi-milliardaires, même si tu auras tout ça, tu peux rien donner à Dieu en échange de ton âme. À quoi ça sert de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Dieu dit, contente-toi de ce que tu as. Puis je vais pourvoir à tes choses à mesure. Vis comme un voyageur sur la terre. Cherche pas à tout accaparer, ça fait juste trop pesant. Prends juste ce que tu as de besoin, puis investis dans l'œuvre de Dieu. Puis Dieu va nous bénir. Puis Dieu, on va maintenir notre contact avec Dieu, parce qu'on va rechercher les choses réelles. À garder la foi en Jésus-Christ, persévérer dans sa foi, faire les œuvres qu'il nous demande, on va arriver au bord, puis les récompenses vont nous attendre. Amen. On va faire une prière. Pour ceux qui ont peut-être perdu le chemin, puis qui se sont détournés parce qu'ils ont écouté des convoitises charnelles, je sais qu'il y a du monde qui écoute sur Internet, puis ça peut être ici aussi. Il faut faire la paix avec Dieu. Il faut retourner à Dieu puis lui dire à Dieu qu'on s'engage à le suivre et à le servir. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée, qui nous parle sur la convoitise et comment ce qui est important de faire attention aux désirs de notre corps qui veut nous entraîner ou les désirs de nos yeux, à nous entraîner dans le péché puis à désobéir à ta parole. Donne-nous de vivre avec du contentement. qu'on puisse vivre en se contentant de ce que tu nous donnes. Puis merci, Seigneur, à tes promesses que tu nous donnes, qui nous dit que tu vas pourvoir à nos besoins, puis tu vas nous donner ce qui est nécessaire. Donne-nous de rechercher le royaume puis la justice de Dieu, à marcher de manière qui te plaît, puis donne-nous de persévérer jusqu'à la fin dans la foi, en gardant toujours dans notre cœur qu'on est dans des voyageurs puis que les tentations sont là pour nous faire chuter. Je demande de donner à tous, Seigneur, cette force qui vient de ton esprit, puis de nous donner une voix claire, puis de combattre efficacement pour résister aux tentations du diable. Je te remercie de la victoire que tu veux nous donner dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.